Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?». Cette semaine, dans l'émission, nous allons revenir sur la situation au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Et dans la première partie de l'émission, nous allons revenir sur la situation de la Syrie. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois dans l'émission. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Thomas Pierret. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vous êtes chargé de recherche à l'IREMAM CNRS et basé à Aix-en-Provence. Et on peut dire que vous êtes un expert bien du Proche et du Moyen-Orient. Et en particulier, on a eu l'occasion de vous lire dans un certain nombre d'articles. Il y en a un en particulier qui avait attiré mon attention. C'était « Syrie, une stabilisation en trompe-l'œil ». C'était sur le site The Conversation en juillet 2021. Et c'était un article très complet qui faisait un petit peu le point sur la situation, notamment après la... Comment, on ne sait pas trop comment le dire, mais enfin la réélection de Bachar al-Assad qui avait organisé une élection présidentielle, on va dire post-guerre civile, et vous essayez un petit peu de décrypter toute cette mise en scène du régime pour une sorte de normalisation qui en fait est factice.
Alors oui, tout d'abord faut-il le rappeler, parce que le régime syrien ne contrôle pas l'entièreté de son territoire, hein, puisque tout ce qui se trouve à l'est de l'Euphrate reste contrôlé par les forces syriennes démocratiques, donc une coalition de groupes armés dominés par un groupe kurde, les YPG, eux-mêmes placés sous une protection militaire américaine, donc qui pour l'instant empêche le régime et ses alliés russes et iraniens de reprendre cette région. Et puis le nord du pays, une zone frontalière le long de la frontière turque, ainsi que la province d'Idlib dans le nord-ouest, qui reste sous le contrôle d'un certain nombre de groupes rebelles syriens et de l'armée turque elle-même dans certaines régions.
Donc on a une situation, une partition de fait du pays, avec des zones d'influence. Et y compris, ça paraît étonnant, mais quand on décrypte la situation, il y a même des zones sous influence du Hezbollah qui, même si ils sont alliés au régime syrien, en fait, ont leur propre zone d'influence et de contrôle.
Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que bien sûr, le Hezbollah ainsi que un nombre très important de milices chiites armées et financées par l'Iran et obéissant aux ordres de l'Iran, puisque le Hezbollah libanais est entré en Syrie officiellement en 2013 sur ordre de l'Iran. Donc tout cela, bien sûr, tous ces groupes opèrent dans les zones contrôlées par le régime et ses alliés russes et iraniens, mais il est vrai qu'il y a certaines régions auxquelles le Hezbollah accorde une importance toute particulière. Il s'agit bien sûr de la frontière avec le Liban pour des raisons évidentes, puisque les bases du Hezbollah libanais elles-mêmes sont en Iran, mais pas seulement. Et on voit aussi que le Hezbollah libanais et d'autres milices pro-iraniennes ont des installations assez importantes au sud d'Alep, par exemple, à certains endroits de la vallée de l'Euphrate. Et je dirais que c'est chaque fois lié à des considérations de type stratégique spécifique. On peut penser au sud d'Alep que ça a à voir avec des industries de production militaire importantes pour le Hezbollah. Dans la vallée de l'Euphrate, près de la frontière irakienne, il s'agit de maintenir ouvert ce qu'on appelle un pont terrestre, hein, qui permet de connecter l'Iran à la Syrie par la terre à travers l'Irak. Et donc les groupes pro-iraniens ont un intérêt tout particulier pour le poste frontière qui permet à cette route, donc venant d'Iran et d'Irak, d'entrer en Syrie.
Alors on a également une forte présence au nord, à la frontière avec la Turquie. On a une zone un petit peu tampon qui est protégée par l'armée turque également. Et puis, vous l'avez dit, il y a une troisième partie du pays. Finalement, il y a une sorte de tripartition qui est encore occupée par les forces dites démocratiques qui avaient essayé de se structurer après le soulèvement de 2011. Et du coup, on a une situation un petit peu, vous dites aujourd'hui, de statu quo, de paix armée, mais avec quand même beaucoup d'incertitudes sur les évolutions possibles.
Oui, alors je dirais que effectivement on a un statu quo parce que les lignes de front depuis un an et demi environ bougent très peu, dans la mesure où on a donc trois puissances extérieures, enfin quatre au total, mais je dirais qu'ils soutiennent trois camps différents, les Iraniens et les Russes derrière le régime, les Turcs derrière les rebelles, et puis les Américains derrière les forces démocratiques syriennes. Ces acteurs extérieurs, ces puissances extérieures ont tracé des lignes, si vous voulez, en montrant aux autres acteurs qu'elles ne voulaient pas que ces lignes changent. Hein, par exemple, en février 2020, quand l'armée turque est intervenue contre les forces du régime pour arrêter leur progression dans la province d'Idlib. Et ça, effectivement, ça a instauré cette situation de paix armée. Et on peut imaginer que dans ce contexte, la seule chose qui pourrait dramatiquement faire évoluer les lignes de front, ce serait qu'un de ces acteurs extérieurs décide de se retirer, hein, partiellement ou totalement. Partiellement, on pense bien sûr à ce qui a pu arriver il y a deux ans maintenant, en octobre 2019, lorsque l'administration Trump a décidé de se retirer d'une partie de la zone située à l'est de l'Euphrate, hein, donc de la zone des forces démocratiques syriennes, pour permettre une opération de l'armée turque, hein, l'opération dite « source de paix », voilà, le long d'une portion de la frontière entre la Turquie et la Syrie. Et aujourd'hui, il y a des rumeurs à Washington. Le problème, c'est que ce qui vient des États-Unis est un peu contradictoire, et c'est d'ailleurs parce que il y a sans doute dans l'administration Biden des opinions contradictoires sur ce qu'il convient de faire. Et on a sans doute, on sait qu'il y a des gens qui souhaitent rester en Syrie militairement, et d'autres qui envisagent peut-être un retrait. Donc évidemment, on peut imaginer que si l'option du retrait venait à l'emporter à Washington, là on aurait une évolution tout à fait majeure dans une recomposition en profondeur des zones d'influence sur le territoire syrien.
Alors on voit aussi qu'il y a une bataille de communication qui se joue autour de la situation dans le pays, avec en particulier Bachar al-Assad, donc qui a mis en scène sa réélection. Donc il a été investi, l'élection a eu lieu le 26 mai, il y a une cérémonie d'investiture le 17 juillet, avec des images un peu d'Épinal. On peut regarder ça, ces images, on les retrouve facilement, et comme si en fait le pays était au sommet de sa gloire avant la guerre civile. On a l'impression que tout va bien. Or en fait on est dans un pays qui est dévasté, plus de 500 000 morts, 12 millions de personnes déplacées, on en parlera tout à l'heure. Quel est l'intérêt de cette communication un petit peu de propagande, quoi, officielle?
Alors je dirais qu'il y a deux cibles de cette propagande. Il y a d'abord une propagande à destination de l'extérieur, c'est-à-dire de projeter autant que faire se peut l'idée que la Syrie est revenue à la normale, et qu'il convient pour les acteurs extérieurs, pour les pays étrangers, à commencer ceux de la région, de normaliser ses relations avec la Syrie, de renouer à tous les niveaux, diplomatiques, économiques, etc. Ça marche d'ailleurs pas mal, hein. On a vu ces derniers mois qu'il y a eu une avancée assez spectaculaire, notamment dans le rapprochement entre la Syrie et son voisin jordanien au sud, également avec l'Égypte, bien sûr avec les Émirats Arabes Unis, qui ont un peu été le pays qui a été le fer de lance de cette réhabilitation du régime syrien dans le monde arabe. Donc voilà, on cible un public extérieur. Il y a aussi évidemment une fonction intérieure de cette propagande, hein, là on peut parler de, je dirais plutôt de même d'un culte de la personnalité, hein, qui a toujours existé dans le régime syrien de la famille Assad, hein, donc depuis la prise du pouvoir par le père de Bachar el-Assad, Hafez, en 1970. Mais ce culte de la personnalité, il a des intensités plus ou moins grandes selon les époques. Et je dirais que peut-être plus le régime est en difficulté, ou pas en difficulté, mais on va dire moins le régime est légitime, sans doute, plus il va jouer, il va compenser avec cette mise en scène du culte de la personnalité. Et je dis ça parce que bien sûr aujourd'hui on a une situation Alors, d'abord humaine, je veux dire, il y a un nombre très important de Syriens d'abord qui ont perdu des proches aux mains directement du régime. Puis il y a une situation économique, bon, du fait de la répression, de la guerre, des destructions considérables, une situation économique qui est bien sûr désastreuse. Donc toute chose qui joue plutôt contre la légitimité du régime et comme je dirais tous les régimes autoritaires, celui-ci va jouer de ce culte de la personnalité qui a été particulièrement intense au moment de la pseudo-élection présidentielle, hein, puisque c'était une mise en scène, pour compenser ce déficit de légitimité.
Oui, le message, c'est que le régime est là pour rester et que donc il n'y a pas d'autre choix que de parler avec lui.
Alors oui, bien sûr, et d'autant plus, peut-être pour le rappeler, que au moment où le régime a pu vaciller, hein, au milieu de la décennie, notamment avant l'intervention russe, il y a eu des interrogations sur le fait que, même sur le pouvoir d'Assad au sein du régime lui-même, et il s'agit bien sûr de réaffirmer le fait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre interlocuteur qu'Assad. Et puis bon, faut dire, il a tellement fait le vide autour de lui qu'effectivement, en tout cas au sein du régime, il y a aucune autre figure qui aurait une quelconque importance suffisante pour faire figure d'interlocuteur alternatif. Ouais.
Alors on va parler aussi de la situation de ces Syriens qui ont été déplacés. Il y a 12 millions de déplacés. Dont la moitié environ à l'intérieur du pays et 6 millions, plus de 6 millions et demi de personnes réfugiées à l'étranger, hein, essentiellement d'ailleurs dans les États proches, au Liban, je crois qu'il y a presque 1 million de réfugiés, en Turquie 4 millions, il y a des camps de réfugiés également en Irak, et puis après des gens qui ont pu venir en Europe. En fait, on a pratiquement l'équivalent d'une Syrie hors les murs. Quel peut être l'avenir de cette diaspora et quelles sont les perspectives pour eux et pourquoi finalement ils ne peuvent pas revenir alors que, vous le dites, on est dans un relatif accalmie par rapport au conflit armé?
Je dirais que la raison la plus fondamentale pour laquelle la plus grande partie de ces réfugiés ne rentreront pas, probablement, c'est que le régime ne le souhaite pas. Et alors certains des partenaires du régime aimeraient qu'ils les reprennent, je pense en particulier au Liban qui souhaiterait se débarrasser de ce poids que représente la présence des réfugiés. Mais le régime syrien lui-même ne le souhaite pas parce que le régime syrien est en fait assez satisfait de s'être débarrassé de ce qu'il considère comme une partie nuisible de sa population, c'est-à-dire des gens qui ne lui étaient pas loyaux. Et donc il y a eu une série de responsables syriens dont Bachar al-Assad lui-même qui ont fait référence à l'idée qu'il y avait une sorte de nettoyage qui s'était opéré pendant la guerre et que ça avait, je cite bien sûr, ce ne sont évidemment
pas... Oui, c'est le vocabulaire employé.
Voilà. Voilà, purifier, si vous voulez, le corps national d'éléments dangereux et déloyaux. Et le régime sait très bien que si une grande partie de ces réfugiés venait à revenir, ce sont des populations qui pourraient potentiellement être des foyers d'opposition, ce qu'ils ne souhaitent pas. Alors, ça veut dire aussi que les quelques réfugiés alors il y en a qui se risquent à revenir, il y a quand même des retours, mais dans des proportions extrêmement limitées, ces gens s'exposent à des risques non négligeables. C'est-à-dire que même s'ils obtiennent avant leur retour des garanties sur le fait qu'ils ne seront pas l'objet de poursuites,
de représailles,
on a des cas de gens qui avaient reçu des assurances en ce sens et qui malgré tout ont été arrêtés ou parfois même ont disparu ou ont été... pour certains exécutés par la suite. Donc il y a une grande insécurité qui fait qu'évidemment la plupart des gens vont réfléchir à deux fois ou quatre fois avant de remettre les pieds en Syrie. Et puis une dernière chose, c'est l'aspect économique, c'est-à-dire que les perspectives économiques sont tellement déplorables en Syrie que c'est évidemment très peu attrayant pour les réfugiés. Je veux dire, les gens vont revenir, mais pourquoi faire? Pour travailler où, etc.
On a vu, ce sera ma dernière question aussi, un jeu étrange à propos justement de ces exilés ou de ces déplacés, puisque on a retrouvé lors de la crise migratoire aux frontières de la Pologne avec la Biélorussie, des migrants venus directement de Damas, enfin ou de la Syrie, visiblement sur injonction de Bachar el-Assad, qui ont été instrumentalisés pour créer et alimenter cette crise aux frontières de l'Union européenne.
Alors oui, on avait, on a des preuves assez éclatantes de cela, notamment des images de prises à l'aéroport de Damas, de personnes qui attendent de monter dans des avions en direction du Bélarus, dont je pense qu'une partie importante viennent des régions kurdes d'Irak. Et effectivement, on est dans une stratégie de manipulation pure et simple, où on a deux régimes, c'est-à-dire celui de Syrie et du Bélarus, qui ont un intérêt commun, puisqu'ils font tous les deux l'objet de sanctions des pays occidentaux, enfin singulièrement de l'Union européenne.
Ils sont tous les deux alliés avec la Russie.
Et qui sont tous les deux, bien sûr, alliés avec la Russie, et qui ont tous les deux un intérêt à exercer ce genre de pression sur l'Union européenne, dans l'espoir éventuellement que les sanctions soient assouplies.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup Thomas Pierret pour ces explications et pour avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche à l'IREMAM CNRS, que vous êtes basé à Aix-en-Provence et c'était votre première intervention dans notre émission. Donc on vous remercie, c'est peut-être pas la dernière parce qu'on aborde souvent ces sujets liés au Moyen-Orient. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et à bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?», une émission consacrée à la Syrie dans la première partie de l'émission, et puis dans cette seconde partie, on va évoquer la situation en Irak, et on a le plaisir pour cela d'accueillir le député de Haute-Garonne, Sébastien Nadeau. Bonjour Sébastien.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est pas tout à fait par hasard qu'on invite un député français pour évoquer la situation au Moyen-Orient. C'est parce que vous avez eu la possibilité, et vous ne vous en êtes pas privé, d'aller dans le pays il y a quelques semaines. Et donc, on souhaitait, avant de vous poser quelques questions plus précises, avoir un petit peu votre impression, votre sentiment après ces quelques jours passés dans le pays.
Alors d'abord, pour revenir sur les circonstances de mon voyage là-bas, je préside une commission d'enquête sur les migrations, conditions d'accès de vie et aux droits des migrants. Et l'intention de cette commission d'enquête, c'était d'embrasser le phénomène migratoire dans toutes ses dimensions et pour la première fois, je dirais, en vraiment regardant des trajets migratoires d'un point de départ à un point de passage qui est la France ou point d'arrivée. Et donc, dans les pays qui nous a semblé, pour la commission d'enquête, intéressant d'observer, c'était la situation de l'Irak, puisque on a énormément d'Irakiens qui, à l'heure actuelle, arrivent aux frontières françaises et puis sont sur le territoire jusqu'à cette tragédie de la semaine dernière à Calais, enfin au large de Calais, avec ces noyés de la Manche, où plusieurs Kurdes de l'Irak, du Kurdistan irakien, sont morts noyés. Et puis l'un des deux survivants, dont on a un témoignage assez éprouvant à l'entendre, mais qui explique finalement pourquoi il est parti de là-bas, quelles ont été les étapes, et puis ce moment tragique. Mais voilà. Il y a vraiment un cadre à aller voir ce qui se passe en Irak quand on réfléchit aux problématiques de déplacement de population. Et là, il s'agit essentiellement, finalement, d'instabilité politique et de situation de guerre auxquelles les gens tentent d'échapper vers un projet de vie un peu meilleur, donc vers le continent européen.
Au fond, en tant que président de cette commission d'enquête sur les migrations, allez-vous le voir à la source, là où d'où partent les migrants. Donc il y a pas mal de pays que vous avez cités, qui sont la Syrie, l'Irak, la Guinée, le Cameroun, le Yémen, mais on pourrait rajouter aussi le Soudan, la Libye, bref, tous les pays qui sont en fait des zones de guerre ou des zones de conflit.
Tout à fait.
À partir de là, c'est vrai que on a aussi un autre événement qui a frappé l'opinion. Il y a eu évidemment cette tragédie à Calais avec ces 27 migrants qui sont morts noyés. Et puis parmi eux, il y avait effectivement des Irakiens. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'Irakiens dans les camps de réfugiés de Calais et d'ailleurs. Et beaucoup veulent partir vers l'Angleterre. Mais il y a aussi un autre événement qui a frappé du point de vue, c'est l'instrumentalisation des migrations de ces migrants par des régimes comme celui de Monsieur Loukachenko, qui a fait venir littéralement importer des êtres humains depuis l'Irak ou la Syrie pour les positionner comme moyen de pression aux frontières de l'Union européenne avec la Pologne.
Tout à fait. Alors déjà sur les endroits où j'ai pu me rendre en dehors de Bagdad, je suis allé sur un camp de réfugiés, le camp de Bardarach, qui est à 40 km au nord de Mossoul, dans lequel on a, suivant les périodes, mais au moment où on y était, à peu près 3000 réfugiés syriens. À 95%, ce sont des Syriens qui sont là. Et on mesure déjà une situation dans la région du Kurdistan extrêmement difficile, à tout point de vue, du point de vue économique, du point de vue d'un certain nombre de libertés, et se retrouver dans un camp sur ce territoire, sachant que ce sont des gens qui ont quitté la Syrie assez récemment, mais la plupart ont un parcours, ils ont vécu plusieurs mois, plusieurs années éventuellement, sous l'emprise de l'État islamique. Donc ce sont des gens qui finalement n'ont qu'un espoir, c'est d'oublier là où ils sont au moment, là où d'où ils viennent. Et donc ils construisent un ailleurs, et parmi ces ailleurs, ils construisent celui de l'Union européenne, et ça peut être la France, ça peut être la Grande-Bretagne. Mais ce qu'il faut bien considérer, c'est qu'on a un regard sur l'Irak aujourd'hui comme d'un endroit où finalement on serait quelques années après la guerre. Mais juste pour reprendre une très courte chronologie, en juillet 2021, on a eu un attentat dans le quartier chiite de Sad City à Bagdad qui a fait une trentaine de morts. Il y a deux ou trois jours, on a eu cinq combattants kurdes qui ont été tués par une attaque imputée à l'État islamique non loin de Souleymaniye au Kurdistan irakien. Donc tout le territoire est extrêmement en situation difficile. Quand on a atterri à Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, la veille, il y avait eu des tirs de roquettes assez nombreux, assez nourris sur l'aéroport. Donc on a une idée, une représentation aujourd'hui depuis la France de ce territoire comme un territoire qui est en situation post-guerre. En réalité, la guerre est dans Bagdad, puisque c'est un espèce de grand camp militaire où il faut tout faire en fonction de consignes de sécurité extrêmement strictes, où la population, au mieux, a 2 heures d'électricité par jour, sans savoir à l'avance quand seront ces heures d'électricité. Et donc, on n'a pas idée de cet état dans lequel se trouve les populations sur tout le territoire. Et l'Irak a annoncé sa victoire sur l'État islamique en 2017. Alors d'abord, il y a bien eu une victoire, mais enfin, il y a encore énormément d'inquiétude de ce côté-là à avoir. Et par ailleurs, c'est une victoire sur l'État islamique, mais qui n'est pas remplacée par un État du tout construit, solide. On a vraiment une faiblesse de l'organisation de la puissance publique en Irak et qui est effrayante. Et donc toutes les personnes qui sont un petit peu démunies à un moment donné se retrouvent finalement totalement à l'abandon et veulent quitter ce territoire.
Oui, donc vous expliquez aussi ces désirs d'un nombre important d'Irakiens, mais c'est vrai également, on l'a vu dans l'émission juste avant, de Syriens, de quitter leur pays finalement parce qu'il y a un état de délabrement, d'insécurité, une économie qui est totalement désorganisée et donc en réalité des perspectives qui sont assez assez pénibles, assez douloureuses et donnent parfois envie de se projeter dans un ailleurs.
Complètement, complètement. Là, on a beaucoup de d'Irakiens, beaucoup du Kurdistan, hein, mais des autres régions irakiennes également, hein, du sud de l'Irak aussi, qui est dans une pauvreté extrême à l'heure actuelle, qui tentent le tout pour le tout via la Biélorussie en ce moment. Quand on s'est trouvé fin septembre à Bagdad. C'était un moment très particulier parce que justement l'Irak était en train, le gouvernement irakien, à la demande de l'Union européenne, était en train de supprimer tout vol via la Turquie qui se dirigeait en Biélorussie. Donc il y avait cette idée qu'il fallait couper court le plus possible à cette espèce de porte d'entrée de mauvaise malice, hein, bien sûr, de la Biélorussie vers l'Union européenne. Et force est de constater que néanmoins, il y a beaucoup d'Irakiens qui tentent quand même l'aventure, mais cette aventure, elle est terrible. Et quand j'utilise le mot aventure, c'est pas dans un sens d'amusement. C'est une aventure parce qu'il faut, pour eux, hein, c'est les discussions qu'on a pu avoir en différents endroits, il faut partir pour essayer de construire autre chose. Le rescapé de la semaine dernière explique qu'il est venu pour aller au Royaume-Uni, gagner de l'argent, pour pouvoir donner de l'argent pour sa sœur qui en a besoin pour aller se faire soigner en Inde. En dépit de son tragique accident, il est rescapé. Il continue de dire qu'il veut aller en Grande-Bretagne pour pouvoir gagner de l'argent et pour que sa sœur puisse être soignée en Inde. Donc il faut comprendre qu'on est dans une situation de détresse des populations qui est extrêmement importante, que l'accès à des choses qui pourraient paraître évidentes ne l'est pas en Irak à l'heure actuelle, en tout cas ne l'est pas pour une bonne partie de la population. Et donc il y a ce phénomène migratoire qui est parfaitement compréhensible depuis son point de départ. On est dans un moment où l'Union européenne, les différents pays sont assez réticents à organiser des voies migratoires légales. On est dans un moment où le droit d'asile vis-à-vis des Irakiens est loin d'être systématique parce qu'on considère qu'il n'y a plus la guerre là-bas. Et du coup, si on ferme ces solutions, il n'en reste qu'une seule pour un pays comme la France et pour l'Union européenne, c'est de jouer la carte de la stabilité en Irak, essayer d'apporter des soutiens là où il le faut. Alors, le soutien militaire, c'est essentiellement les Américains qui le portent encore, mais s'il y a besoin de soutien militaire, c'est une chose, mais c'est pas avec du soutien militaire qu'on fait avancer la démocratie, qu'on fait avancer les droits de l'homme, qu'on fait avancer les droits tout court, qu'on fait avancer l'accès à l'eau. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des questions qui sont prioritaires, qui pour l'instant sont assez mal abordées. Non pas que la France est à rougir, elle tente des choses, elle fait des choses, notamment au camp de Bardarach, pardon.
Sébastien, juste je voulais vous rebondir sur cette présence d'ONG française. Au fond, d'après ce que vous nous dites, c'est pas l'État irakien qui peut pourvoir à il a déjà du mal à s'occuper des Irakiens, donc il y a aussi beaucoup de réfugiés, et notamment de réfugiés syriens en Irak. Ce sont bien des ONG internationales qui sont là, ou le HCR qui intervient auprès de ces populations pour leur permettre de survivre.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, le monde occidental a tout détruit en Irak. Donc la moindre des choses, c'est quand même de se dire que bon, très bien, on a sorti un dictateur, enfin les Américains ont sorti un dictateur, donc ça c'est une chose qui est reconnue comme telle, c'est très bien, mais il y a toute une logique d'aide à la reconstruction d'un pays qui passe par les questions éducatives, qui passe par les questions de l'emploi, qui passe par les questions des premiers soins, des premières choses élémentaires, l'eau, l'électricité, des choses comme ça. Et oui, pour l'instant, il y a besoin d'un apport extérieur, mais avec toute cette inquiétude, c'est que le pays est en proie à toutes les divisions confessionnelles et claniques qu'on peut lui connaître, mais en plus est en proie aux ingérences extérieures extrêmement négatives également. L'un plus l'autre fait que la situation est délicate et que donc il faut vraiment être sur une co-construction des choses avec les débuts embryonnaires d'État qu'on peut trouver en Irak. Mais je crois que la méthode de la substitution et les ONG vont faire à la place, etc., c'est quelque chose qui sur du moyen terme, on voit que ça fonctionne pas très bien. L'UNRWA pour les territoires palestiniens, pour les réfugiés palestiniens, s'est substitué et c'est très bien la mission qu'ils endossent, mais résultat, on n'a toujours pas quelque chose de construit pour les Palestiniens qui ne sont pas en Palestine. Et donc, véritablement, la question se pose de la manière dont il faut accompagner. Et typiquement, le camp de réfugiés de Bardarach, l'école qui a été construite construite par la France. C'est un processus qui est extrêmement sain. La France avait mandaté deux ONG il y a quelques années. Quand on l'a visité, il y avait plus d'ONG françaises au moment. Mais ça fonctionnait et les enfants du camp pouvaient aller à l'école. Donc il y a des choses qui sont à penser, il n'y a pas que des choses négatives qui sont faites par les puissances étrangères, mais il y a quand même cette vigilance à avoir. L'Irak est quand même depuis des années dans une situation gravissime, plus ou moins sous perfusion et sous protection des Américains, mais les Irakiens risquent aussi l'étouffement. C'est-à-dire qu'ils ont besoin par eux-mêmes de pouvoir fonctionner. Alors il y a eu les élections législatives, on s'avance petit à petit, parce que la formation du gouvernement est un petit peu compliquée, mais on s'avance petit à petit quand même, a priori, vers quelqu'un qui serait du camp de Moqtada al-Sadr. Et il y a des intentions avec lesquelles il faut considérer en tant que pays comme la France, en tant qu'Union européenne, qu'il faut prendre appui sur le processus démocratique qui a mis Moqtada al-Sadr en tête, et il faut voir comment on peut construire quelque chose d'intéressant pour la suite.
Merci beaucoup Sébastien Anado pour avoir fait nous avoir fait part de votre analyse, de votre témoignage également, puisque je rappelle que vous étiez en Irak il y a quelques semaines en tant que président d'une commission d'enquête sur les migrations. L'Irak est un pays d'où viennent nombreux migrants pour aller en France, en Angleterre et dans d'autres pays. Et le but de votre mission était effectivement de comprendre les raisons de ces départs, et vous nous avez bien expliqué la situation. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission, et si on en parlait, vous êtes sur Radio Orient. Merci Sébastien, au revoir.
Merci.
Et si on en parlait, du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.